chers auditeurs, bienvenue dans ce libre journal sur Radio Courtoisie. Aujourd'hui, nous recevons une voix qui ne mâche pas ses mots, hein, une journaliste qui a choisi la liberté plutôt que les ordres du système. Pendant des années, Myriam Palomba a dirigé la rédaction du magazine Public et a été chroniqueuse régulière dans Touche pas à mon poste, aux côtés de Cyril Hanouna. Puis, un jour, elle a tout quitté, lassée des compromissions, des silences et des lâchetés du mainstream. Elle a créé donc sa chaîne YouTube On se parle cash, entre autres, pour dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. En octobre 2025, elle lançait publiquement à tout un monde médiatique « Vous n'êtes qu'une sale bande de lâches hein. ». Depuis, elle n'a cessé de dénoncer la censure, la vérité et les vérités interdites, les scandales étouffés et les renoncements qui minent notre pays. Journaliste militante tous les deux à la fois, visionnaire ou provocatrice, peu importe le label. Donc aujourd'hui, Myriam Palomba vient nous parler cash, sans filtre et sans concession. Eh bien, Myriam Palomba, bonjour et bienvenue sur Radio Courtoisie.
Bonjour Jean-Étienne.
Eh bien, écoutez, je vais commencer directement avec ma première question. Vous avez longtemps été, donc, comme je l'ai rappelé, directrice de la rédaction du magazine Public et chroniqueuse régulière dans Touche pas à mon poste chez Cyril Hanouna. Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter ces univers mainstream, comme on appelle ça, pour devenir une voix plus indépendante avec votre chaîne YouTube, par exemple d'ailleurs, j'invite les gens à regarder cette chaîne. On se parle cash.
Pour être très honnête avec vous, je n'ai pas vraiment décidé de tout lâcher.
D'accord.
Alors vous avez dit que j'étais directrice de la rédaction de Public, ce qui est vrai, mais j'étais également, j'avais un rôle plus important qui était d'être directrice déléguée, donc rattachée directement à la directrice générale du groupe dans lequel je travaillais. Mm-hmm. Et je dirigeais en fait plusieurs magazines et ça ne se résumait pas à l'aspect éditorial des choses, mais l'aspect éditorial des magazines représentait à peu près 30% et tout le reste était. J'avais une soixantaine de journalistes sous ma responsabilité.
Oui,
et du
rien.
Coup, voilà, je gérais des budgets, je gérais de la diversification de marques. Je faisais beaucoup de management, etc. Et c'est vrai que j'avais décidé, m'en a valu de garder le titre de directrice de rédaction de Public pour pouvoir garder ma carte de presse.
D'accord.
Parce qu'en tant que directrice déléguée, j'étais cadre supérieur. Mmh. Et donc, je n'étais plus journaliste. Et donc, j'avais un droit de réserve. Et donc, une liberté que je n'avais plus en tant que journaliste, c'est-à-dire ma liberté d'expression. Donc, à l'époque, et d'ailleurs, je leur remercie, Claire Léos, qui aujourd'hui dirige le groupe BFM a accepté de me garder la casquette de directrice de la rédaction de Public afin que je puisse garder à l'époque ma carte de presse. Et donc, parallèlement à ces activités qui me prenaient énormément de temps, j'avais une vie professionnelle extrêmement bien remplie qui d'ailleurs allait même prenait le pas sur ma vie privée. Parce que c'était un poste très important. J'avais également une participation à l'émission de TPMP. Mmh. Comment je suis arrivée, si ça vous intéresse,
On a le temps.
Sur cette émission, c'est totalement, par hasard, entre guillemets. Il s'avère qu'à l'époque, je faisais partie d'un groupe de presse qui s'appelait Lagardère Média. Mmh. Et à l'époque, Cyril Hanouna n'arrêtait pas de critiquer une des rédactions que j'avais dans mon escarcelle, à savoir Public. Et donc, il n'arrêtait pas de dire que Public sortait n'importe quoi, disait n'importe quoi. Et un jour, moi, je regardais pas spécialement TPMP, pour être très honnête avec vous. Je regardais à l'époque de France 4,
ah oui,
là où ça me faisait extrêmement rire.
Avant qu'il atterrisse
sur C8.
C8 et CNews.
Voilà, et CNews. C8. Et donc, je regardais pas spécialement, et à chaque fois, on m'envoyait toutes les séquences où ils critiquaient le magazine que je dirigeais à l'époque, ouais. Et donc les journalistes qui faisaient partie de l'équipe. Et donc, un jour, il y a été hyper fort en disant, en alpaguant carrément Arnaud Lagardère, hein, et en lui disant, écoute, Arnaud, tu sais que je t'aime beaucoup. Alors, il faut savoir qu'il était très pote avec notamment le bras droit d'Arnaud Lagardère. Et donc, il lui dit comme ça à l'antenne, c'était une info, on avait sorti une info sur Koh-Lanta. Il nous dit, c'est n'importe quoi, il raconte n'importe quoi dans ce magazine. Il faudrait que tu regardes un peu qui dirige cette équipe parce que c'est vraiment n'importe quoi. D'accord. Et donc, on m'envoie cette séquence. Et c'est vrai que jusqu'à présent, j'avais pris le parti pris de ne pas répondre aux attaques de Cyril. Mais là, quand même, j'étais directement visée, puis c'était un peu fort de café. Et puis, pour le coup, en plus, j'étais sûre de l'information qu'on sortait. Donc, en fait, je lui ai envoyé un message un peu, costaud.
Oui.
En lui disant qu'il fallait que ça s'arrête. Mm-hmm. Et en fait, j'ai été extrêmement surprise. Il m'a appelé tout de suite, je sais pas, peut-être 5 ou 6 minutes après avoir rendu l'antenne de TPMP. Et là, on s'est pris la tête pendant 10 bonnes minutes. On s'est pris la tête pendant 10 bonnes minutes, parce que je suis pas du genre tout Cyril Hanouna qu'il est. Quand j'ai quelque chose à dire, je suis pas du tout intimidée par Cyril. Et en fait, on s'est pris la tête. Et là où j'avoue qu'il a été plutôt drôle, c'est que au lieu que ça se finisse en insultes et autres, eh bien il m'a dit, donc t'as une sacrée personnalité, ça te dirait de venir faire du people sur TPMP. Et moi je lui dis, ok, mais alors en échange je peux venir faire la publicité de mes magazines dans ton émission, sachant qu'à l'époque je n'avais plus de budget publicitaire pour faire la pub des magazines. Donc, c'était donnant-donnant. Je n'étais pas payée à l'époque. Donc, je faisais, dans le cadre de ma fonction de directrice déléguée, je faisais la promotion des magazines. En tout cas, j'allais en parler à travers un sujet. Mm-hmm. Et en même temps, je parlais d'actualité people chez Cyril. Et ça a duré quand même beaucoup d'années. Hein. J'ai bossé, je crois, en tout 6 ou 7 ans chez lui. Donc voilà, je faisais
c'était pas mal quand même.
Oui, c'était pas mal. Donc je faisais du people. Et puis bon, il y a eu la crise sanitaire.
C'est ça. Et en octobre 2025, vous avez déclaré publiquement, comme je le disais, vous n'êtes qu'une bande de lâches hein, au monde de la télévision. Pouvez-vous, Myriam, nous expliquer ce qui vous a amené à ce coup de gueule? Et quels sont les lâches hein, que vous visiez précisément?
Oula, il y en a beaucoup. En fait, ce qui s'est passé, c'est que du jour au lendemain, en tout cas en ce qui concerne TPMP, je n'ai plus été appelée. C'était le lendemain de... J'avais été à l'Assemblée nationale pour suivre... vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez de la loi sur les dérives sectaires.
Tout à fait.
Avec le fameux article 4 qui rendait une peine de prison et une amende. Mmh. Voilà. Et donc, je me souviens, c'était un 13 février et je devais faire 3 ou 4 émissions dans la semaine de TPMP. Mmh. Et du jour au lendemain, donc je suis allée pour cette fameuse loi qui, quand même, était une loi liberticide comme on n'en a jamais vraiment faite en France. Et du coup, je me souviens, à l'Assemblée nationale, j'étais alpaguée par M. Delaporte, parce que j'avais été invitée à l'époque par Nicolas Dupont-Aignan.
Oui.
Et donc, il dit à M. Nicolas Dupont-Aignan qu'il a osé inviter qu'une petite complotiste qui racontait n'importe quoi sur notamment la pédocriminalité et les élites.
Mmh.
Et à partir de ce jour-là, je n'ai plus jamais été invitée sur TPMP sans même savoir la raison, alors que j'y allais à peu près 3-4 fois par semaine. Bon, vous doutez bien que j'ai deviné clairement ce qu'il en était. Et puis bon, j'ai découvert qu'en fait, c'était carrément Paul Auré qui avait interdit ma venue, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit par la suite, ma venue sur les antennes de C8 et d'autres. Comme ça, du jour au lendemain, parce que j'avais été notamment sur cette loi des dérives sectaires. Et puis c'est vrai que comme je n'ai pas ma langue dans ma bouche, on m'avait demandé de commenter un article de Paris Match où Brigitte Macron avait donné une interview où elle racontait à quel point elle avait été étonnée de tomber amoureuse de son élève, etc. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette interview, cette fameuse interview où elle nous raconte qu'elle fait des œufs au plat à Emmanuel Macron. Et moi, quand on m'a demandé de commenter cet article, j'ai appelé Cyril en disant « je ne vais pas pouvoir faire du factuel, Cyril, c'est impossible ». Et lui, comme d'habitude, je vous limite, hein, tu fais ce que tu veux, ma chérie, fais ce que tu veux. Bah, ça n'a pas loupé, donc j'ai fait un peu ce que je voulais, comme j'ai toujours eu l'habitude de faire. Et donc, je l'ai massacré. Et je l'ai notamment massacré en disant que je trouvais que j'avais face à moi, comme d'habitude, tous les chroniqueurs qui me traitaient de jalouse. J'ai même Bernard Montiel qui a osé me dire que je devais être sacrément malheureuse dans ma vie amoureuse pour dire des choses pareilles. Alors, je le rassure, tout va bien.
Madame Maillet aussi, non ?
Oui, bon, Madame Maillet m'a... Oui, carrément, elle m'a traité d'antisémite, c'était assez hallucinant, parce que j'ai osé dire que une prof de 39 ans qui sort avec son élève de 14-15 ans, c'était pénalement condamnable. Voilà.
Tout à fait.
Et ça, si vous voulez, cette petite phrase a scellé à tout jamais ma carrière professionnelle dans le mainstream.
Donc, en plus, vous l'avez appris, personne ne vous a appelé, rien, vous l'avez appris par un intermédiaire.
Oui, je l'ai appris par un intermédiaire. Quand j'ai demandé des explications, on m'a trouvé des excuses. Enfin, on ne me donnait pas vraiment d'explications. En plus, ce qui était très bizarre, c'est que j'étais programmée. Moi, j'avais prévenu que je ne pouvais pas venir ce soir-là, le 13 février, que je ne pouvais pas venir parce que j'allais justement à l'Assemblée nationale. Et donc, avec la production, il était convenu que je reviendrais dès le lendemain. Mmh. Et en fait, quand j'ai appelé pour savoir si je venais le lendemain, comme c'était prévu,
Ben non.
Et je n'ai plus jamais remis les pieds sur la chaîne C8 et puis nulle part ailleurs, en fait, pour être très honnête.
Ah oui, parce qu'il n'y a pas que sur C8.
Voilà.
On en parlera. Rappelons aussi que vous avez été candidate sur la liste de Florian Philippot aux Européennes. Où en êtes-vous aujourd'hui, hein, on a le temps, hein, dans votre engagement politique, Myriam, et vous sentez-vous plus journaliste, plus militante ou les deux à la fois?
Alors là, il y a plusieurs questions.
Ah bah,
alors j'aimerais déjà préciser que si je me suis engagée avec Florian, c'était aussi à une époque où je ne travaillais plus. Vous voyez, j'avais plus, c'était le 13 février 2024 où j'ai arrêté complètement de travailler, que ça soit à TPMP, mais pareil, hein, dans des groupes de presse où j'arrivais encore à bosser. Donc à partir de ce jour-là, plus de contrat, plus rien. Moi j'étais déjà engagée entre guillemets, hein, parce que j'ai pas de statut, moi, chez les Patriotes, le parti de Florian Philippot, je n'ai aucun statut, mais j'étais engagée, si vous voulez, avec Florian parce que il se battait notamment contre les mesures sanitaires, contre le pass sanitaire. Il a dénoncé les effets secondaires du vaccin. Et donc, du coup, moi, j'ai souvent été à la tribune de ces manifestations pour participer et moi-même dénoncer, parce que c'était l'un des rares endroits où on pouvait le faire. Et donc, ne travaillant plus, je crois que c'était février ou mars, un mois après de ne plus travailler, Florian, qui était devenu un ami, je discute avec lui et puis on dînait ensemble. Et puis je lui dis, je ne sais pas comment tu fais pour être politique, parce que j'aurais vraiment du mal à avaler autant de couleuvres. Et là, tu me dis, c'est bien dommage, parce que j'aurais aimé que tu sois ma numéro 2 sur la liste que je vais présenter aux Européennes. Donc là-dessus, je fais, oh là là, je suis déjà pleine d'ennuis. Est-ce que je continue, sachant que ça allait évidemment me cataloguer. Et puis finalement, j'en ai discuté avec mon mari et... le combat que mène et que menait Florian était un combat qui allait totalement dans mes convictions. Et c'est vrai que jusque-là, j'ai toujours fait passer mes convictions avant le reste, c'est-à-dire avant mon métier et avant l'argent. Donc à ce moment-là, je fonce. Et je me dis, en plus de ça, ce sera une belle expérience. Ça me permettra de voir une élection de l'intérieur.
Oui.
En tant que journaliste, pour
Bien
être très
sûr.
honnête, je me faisais pas de plan sur la comète, je me voyais pas députée européenne dans les semaines qui allaient venir,
Non,
hein.
ça c'est une
Je
grosse
sais
expérience quand même.
surtout que bon, on voit bien comment les débats ont été menés et le peu de temps de
Tout à fait.
parole que nous avons eu. Mais voilà, pour moi, je me disais c'était une expérience de voir un peu comment ça fonctionnait. J'ai pas été déçue du voyage. Je me suis bien rendu compte qu'on
Oui.
était vraiment dans une démocratie bananière. Et effectivement, voilà, j'ai fait cette campagne où j'ai appris plein de choses parce que déjà, c'est un exercice vraiment différent de faire des meetings. De parler devant des personnes, de 100 à 1000 personnes. C'est vraiment différent parce que là, les gens sont assis, ils attendent ce que vous dites.
Ah
Il
ben
faut
oui.
être à la fois percutant, avoir de l'humour, dire les réalités des choses. Enfin, un exercice dans lequel excelle Florian Philippot. Mais moi, j'étais novice et donc j'ai appris à faire des meetings. C'était très enrichissant. Et donc, comment vous dire? En fait, je ne pense pas avoir fait le choix entre le fait d'être militante ou journaliste, en fait. Je crois que de toute façon, quand vous êtes journaliste, vous êtes militant par essence, puisque de toute façon, vous travaillez toujours pour une ligne éditoriale.
Ah oui, dans ce sens-là,
Voilà, vous
d'accord.
travaillez toujours pour une ligne éditoriale. Sauf qu'aujourd'hui, il est de bon ton d'être journaliste et militant de gauche, mais il est très mal vu d'être journaliste et militant. Alors moi, j'estime pas être militante de droite ou d'extrême droite, hein, parce que pour moi, le Parti des Patriotes est tout sauf d'extrême droite, mais d'être en tout cas militante souverainiste pour sortir de l'Union européenne. Sauf que, voilà, c'est un gros mot en France. On a le droit d'être journaliste et militant de gauche, hein, ce que sont quasiment tous les journalistes,
Oui, beaucoup, effectivement.
soit par faiblesse, soit par conviction, soit par je ne sais quoi d'autre. Mais dans tous les journalistes politiques que nous avons, que ça soit en presse écrite, à la radio ou à la télé, vous en avez aucun qui est neutre. Faut arrêter. Sauf que c'est pas neutre quand c'est de droite et c'est neutre quand c'est de gauche.
Oui, mais c'est quand même grave, hein.
Oui, mais pourtant c'est la réalité des choses. Et si vous voulez, moi, c'est un peu compliqué pour moi parce qu'aujourd'hui, n'étant ni vraiment étiquetée à droite, ni vraiment étiquetée à gauche, étant souverainiste, et puis étant privée, alors quand je vais sur des médias de droite, on me dit que je suis de gauche. Quand je vais sur des médias de gauche, on me dit que je suis droite, donc je suis un peu inclassable. Et puis de toute façon, comment vous dire, mes prises de position, tant qu'il y aura Emmanuel Macron, alors j'espère que ça changera par la suite en 2027. J'espère qu'on n'aura pas Édouard Philippe parce que ça voudra dire que
J'avais bien compris.
les Français n'auront rien compris voter pour l'homme des gilets jaunes, du rivotril et du confinement. Si vous voulez, ça me paraît juste hallucinant, mais le système est fait de telle sorte que rien ne me paraîtrait bizarre, hein, qu'il ne soit pas élu, hein.
Alors, si je peux me permettre, il suffit, je vous coupe, il suffit de voir le résultat à la mairie de Paris, oui, par exemple.
Exactement, en plein scandale sur le périscolaire, on
Oui.
a Emmanuel Grégoire, hein, et bien pourtant il a été réélu. Donc moi aujourd'hui, vous voyez, j'ai pas le droit de travailler sur les médias Bolloré, apparemment, hein, je ne sais pas si ça a changé dessus, j'ai jamais eu l'occasion et la chance d'en discuter avec Monsieur Bolloré. Je n'ai pas le droit de travailler. Je ne suis certainement pas la bienvenue dans des magazines de gauche, puisque depuis la crise sanitaire, on m'a étiquetée d'extrême droite, alors que
Complotiste,
complotiste,
machin.
conspirationniste, tout ce que vous voulez, alors que moi, j'estime que le facho, il est déjà au pouvoir. Voyez, pour moi, Emmanuel Macron, c'est lui l'extrême droite. Enfin, vous voyez, quand on a confiné les gens, quand on leur a menti, quand on fait ce qu'on veut, qu'on dépense l'argent du contribuable comme il le fait lui, sans rendre de compte, Et qu'on tape et qu'on matraque sa population dès qu'elle manifeste dans la rue. Hein. On l'a vu avec les gilets jaunes, mais on l'a vu aussi pendant le pass sanitaire. On l'a vu également avec les paysans. Excusez-moi, si c'est ça, être homme de gauche, je suis bien contente de ne plus être de gauche.
Alors comment on peut expliquer, parce que moi ça me dépasse, j'aimerais bien avoir votre avis, comment on peut expliquer que des gens continuent à voter pour... rester sur la même ligne. Quoi. Moi, ça me dépasse.
Alors, il y a deux choses. Il y a, déjà de la propagande qui est extrêmement bien faite sur tous les médias. Hein. Je veux dire, tous les médias sont détenus par des actionnaires qui vont choisir leur candidat. Et puis bon, on a quand même les deux principaux médias, parce que je sais qu'on parle beaucoup, on parle souvent de CNews, de Cyril Hanouna, alors, etc. Oui. Mais les plus grand vecteur de propagande reste le journal, les journaux télévisés de 20h de France 2 et TF1 où on a l'impression de vivre dans un autre monde quand on regarde ces journaux. Donc déjà il y a une propagande qui est faite et puis on a une opposition, surtout une opposition côté extrême gauche, hein, LFI, qui ne cesse d'exacerber les oppositions entre extrême droite et extrême gauche sans jamais critiquer ce qui se passe en ce moment, en fait. Mmh. Si vous voyez, quand vous entendez une Mathilde Panot, elle n'a que Marine Le Pen, Jordan Bardella à la bouche. Quand on a le RN, ils ont souvent LFI, RFI, l'immigration à la bouche, mais j'en entends très peu avoir la problématique Emmanuel Macron à la bouche. Et donc aujourd'hui, vous avez des gens comme Emmanuel Macron ou Édouard Philippe qui passent comme le plus raisonnable aux yeux de la population.
Voilà. C'était prévu. Voilà. Avant de faire une petite pause, voulais, si vous le souhaitez aussi, puisqu'on parlait des vaccins, faire une petite dédicace à ce monsieur que je reçois souvent, Marc Doyer.
Oui, Marc.
Que je trouve très, puisque vous le connaissez bien, le porte-parole de Vérity France, parce que c'est quelqu'un de... combatif et je sais pas.
C'est quelqu'un de très combatif. Alors moi, Marc, c'est moi qui l'ai un peu, aidé à être un peu mise en lumière pour pouvoir parler.
Quant à Vérité, entre autres.
Non, parce qu'en fait, j'avais vu son témoignage sur Morissette, sur les réseaux sociaux, et je l'ai fait venir à TPMP.
Ah
j'ai
oui,
fait
oui,
des
oui,
pieds et des mains pour qu'il aille à TPMP c'est là qu'on s'est rencontrés. Je crois que j'étais la première à parler de lui dans une émission mainstream. Et puis depuis, en fait, on s'est rencontrés sur TPMP et on ne s'est plus jamais quittés. Mais je tiens quand même à dire qu'il y a Marc, évidemment, qui fait un travail exceptionnel et puis qui souffre de cette situation. Et je voudrais aussi saluer Frédéric Beltra, qui dirige Vérity France et qui a perdu son fils dans des conditions dramatiques et qui fait également un boulot énorme derrière.
Ah oui, qui a perdu son fils, rappelons-le, l'après-midi même, je crois.
Dans la soirée, deux, trois heures après. Moi, je sais que Frédéric m'a raconté comment son fils était mort et je peux vous dire que rien que d'en parler... j'ai une émotion particulière qui monte parce que quand un père vous raconte comment son enfant est mort dans ses bras, qu'on a eu beau lui faire des piqûres pour soi-disant d'adrénaline pour éviter, parce qu'il pensait que c'était à cause d'une cacahuète, parce qu'il avait des allergies, mais en fait rien du tout.
Hein, Marc Doyer me l'avait raconté.
On n'était pas du tout là-dedans. Je peux vous dire que c'est difficile. En fait, quand vous avez
des rageant.
Oui, et puis moi, en fait, pendant la crise sanitaire, c'est pour ça que je me suis pas... j'ai pas du tout pensé à mes plans de carrière quand je me suis lancée dans ce truc-là. Parce que j'avais rencontré des gens comme Frédéric, comme Marc, mais même aussi des soignants suspendus qui pleuraient dans mes bras. Et
ça vous a beaucoup touché.
Voilà, ça m'a beaucoup touché. Et excusez-moi.
Non, mais je vous en prie.
Et du coup, ce que j'ai fait... je l'ai fait sans calcul, en fait. Voilà.
Ah oui, ça, en tout cas, c'est pour ça que j'ai souhaité vous inviter. J'en doute pas une seconde. On va en profiter pour faire une petite pause, un petit message pour les auditeurs de Radio Courtoisie.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
Et surtout, surtout, chers auditeurs, comme vous venez de l'entendre, hein, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours, toujours besoin de vous. Myriam Palomba, donc on, voilà, on vient de parler de Marc Doyer, j'y tenais moi aussi, parce que voilà, il l'aura compris. Un grand monsieur, vous avez souvent dénoncé la censure aussi en France, hein, on en parlait aussi. Pensez-vous que la liberté d'expression est aujourd'hui plus menacée qu'il y a 10 ans? Et quels sont les mécanismes concrets, alors que ce soit pression judiciaire, boycott publicitaire, réseaux sociaux, que vous observez?
Alors oui, elle est plus menacée aujourd'hui qu'il y a 10 ans, même si il n'y a jamais eu de réelle liberté d'expression. Hein, parce que moi, je me souviens quand j'étais notamment dans le groupe Lagardère, le dirigeant, par exemple, de Paris Match, qui avait sorti la rupture entre Cécilia Sarkozy et Nicolas Sarkozy, Monsieur Star, s'est fait virer Manu Militari quelques semaines après, sachant que Nicolas Sarkozy faisait partie du conseil du directoire de Lagardère. Donc il n'y a jamais eu de réel, enfin je veux dire, tous les directeurs de rédaction ou tous les journalistes qui avaient des postes à responsabilité ont toujours été des fusibles dans la presse quand il y avait des choses qui allaient à l'encontre du pouvoir. François Hollande par exemple, alors c'était certainement le plus gentil de tous. Mais ce qu'il a fait quand, par exemple, le magazine Closer et notamment Laurence Pio a sorti l'histoire de Gérard, comment elle s'appelle, de, enfin, que c'était fini avec, oh, j'ai oublié le nom de cette actrice, c'est dingo. Ça ne me revient pas. Ça ne me revient pas. Quand ils ont sorti, bon, qu'il avait trompé, qu'il avait Valérie Trierweiler, bon, bah, Laurence Pio a eu le droit à un bon petit contrôle fiscal, vous voyez. Donc, il y a toujours des moyens de pression à droite, à gauche qui sont faits. Bon, après, je vous dis pas que si l'histoire de monsieur François Hollande est sortie, elle n'est pas sortie non plus à des fins... elle est sortie à des fins politiques aussi. Hein, c'était pour bien saccager son mandat dès le départ. Mais voilà, donc il n'y a jamais eu de véritable liberté d'expression en France. Ça, c'est un fait. Même moi, en tant que directrice déléguée, il y avait des sujets sur lesquels il m'était interdit de parler.
D'accord.
Alors, si vous voulez, ça ne me posait pas trop de problèmes parce que j'étais dans une presse de divertissement. Donc bon... il n'y avait pas vraiment d'enjeu. Ça commence à véritablement me poser des problèmes quand, par exemple, on me demandait de dire « Oh, le pauvre petit... » Enfin, on me demandait pas les choses comme ça.
Indirectement.
Mais si vous voulez, quand vous faisiez un papier sur Emmanuel Macron pendant les Gilets jaunes, qui se faisait insulter, il fallait dire « Oh, le pauvre Emmanuel Macron !» Bon, ben non, si vous voulez, moi, c'était pas le pauvre Emmanuel Macron, c'était les pauvres Gilets jaunes. Mais vous voyez, il y a toujours eu une façon d'orienter les choses. Enfin... quand vous êtes toujours dépendant de qui vous emploie, voyez. Donc les journalistes qui crient à la liberté d'expression, après sur certains médias, vous avez un peu plus de liberté que chez d'autres, ça c'est évident. Et notamment, je trouve, hein, même si j'ai plus le droit d'y travailler, même si c'est paradoxal de dire ça, j'ai trouvé que chez Bolloré, contrairement à ce qui était dit, il y avait une certaine liberté d'expression. Moi, je retrouve aussi une liberté d'expression dans une de vos radios concurrentes, Beurre FM, mais aussi chez vous. Vous voyez, dans des radios un peu plus, un peu moins mainstream, on va dire, que France Inter ou France Info,
ah
qui
oui,
sont
ça,
oui. Les porte-parole de l'Élysée. Donc oui, la liberté d'expression est menacée et elle l'est d'autant plus, j'ai envie de vous dire, quand on entend Brigitte Macron hier, qui a été invitée par Melania Trump à Washington, et qu'on l'entend que la liberté d'expression doit être encadrée, avec des lois, bon, bah, genre, on a envie de lui dire, mais c'est déjà le cas, madame. Hein, on n'a pas le droit d'avoir certains propos, ça s'appelle la diffamation, l'insulte publique, les propos antisémites. Non, là, ils vont encore plus loin. Ils vont encore plus loin dans la censure, puisque aujourd'hui, la liberté d'expression pour ce gouvernement et tous les gens qui gravitent autour, et j'ai envie de dire pour tous les mondialistes, c'est d'avoir, vous êtes libre de vous exprimer quand vous avez un discours qui correspond à ce qu'ils attendent. Mmh. Voilà. Donc, si vous n'avez pas un discours qui correspond à ce qu'ils attendent, eh bien, vous êtes mis sur la touche. Moi, je peux même le dire sans en avoir honte, je suis une victime de la liberté d'expression. Parce qu'aujourd'hui, après 26 ans de carrière, c'est la première fois, c'est la première année où je n'ai même pas eu le droit à la carte de presse, alors que la commission de la carte de presse a reconnu mon activité journalistique.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Et donc, après être passée en commission plénière et en commission supérieure, on m'a expliqué qu'étant la salariée de ma propre boîte, et étant la propre patronne de ma propre boîte où je suis la seule salariée et n'étant donc subordonnée à personne, je ne pouvais prétendre à la carte de presse.
Mais est-ce que c'est légal tout ça ?
Eh bien, écoutez, ce n'est pas légal. J'aurais pu faire un énième recours, mais l'argent se faisant moindre, j'ai décidé de... Voilà, je n'avais plus... parce que c'est quand même des frais juridiques importants. Donc, j'ai décidé de laisser tomber parce que de toute façon, j'ai eu quelqu'un à la carte de presse qui m'a dit « Madame Balomba, je suis désolée, mais c'est politique. » Donc, aujourd'hui, voilà, moi qui ai tout fait, qui ai travaillé pendant des années dans des grands groupes de presse, qui a eu des postes à responsabilité, qui a fait des études... en vue d'être journaliste, eh bien, parce que je n'ai pas le discours qu'il faut. Peut-être est-ce ma faute, peut-être que j'y ai pas suffisamment mis les formes. Hein. Je veux bien le reconnaître et je veux bien me remettre en question là-dessus. Je suis plutôt quelqu'un qui se remet facilement en question. Donc, je sais que des fois, j'y ai pas mis les formes, que j'aurais pu dire les choses autrement. L'émotion a fait que j'ai dit les choses comme ça. Mais vous voyez, je suis capable d'être calme.
Oui.
Mais je regrette pas. Ça reste douloureux pour moi quand même.
Oui, ben je me doute. Parce que 26 ans de carrière, ce n'est pas quand même. C'est pas anodin.
Non.
Et vous avez été aussi au cœur de polémiques sur entre autres l'adrénochrome, le Covid et les vaccins. Aujourd'hui, Myriam, en 2026, regrettez-vous certains de vos propos ou au contraire, estimez-vous avoir été visionnaire sur des sujets que les médias dominants refusaient d'aborder ?
Alors, malheureusement, j'ai été visionnaire, j'ai envie de vous dire. Je m'en félicite pas, hein, parce que moi, j'ai aucune prétention. J'informe les... Si vous voulez, j'ai le journalisme dans les tripes, dans les veines, dans le sang. Donc, quand je suis au courant de certaines choses que j'ai constatées par les faits ou sur lesquelles j'ai enquêté, je retransmets l'information. Donc, j'ai pas fait les choses, que ça soit sur le Covid, sur le vaccin ou l'adrénochrome, pour faire du buzz. J'ai une tête à buzz. Hein. Dès que je sors un truc, je fais du buzz. Je sais pas pourquoi. Je dois avoir une tête à claque ou une tête à buzz, en tout cas. Mais malheureusement, l'histoire m'a donné raison. Et pour le coup, je ne regrette pas du tout tout ce que j'ai dit. Que ça soit pendant la crise sanitaire, je persiste et signe que les confinements n'avaient aucune légitimité, si ce n'est de masquer le fait qu'on avait supprimé des lits à l'hôpital et notamment des lits de réanimation. Je ne regrette pas d'avoir dit que les vaccins avaient des effets secondaires graves. Vous parliez tout à l'heure de Marc Doyer qui a perdu sa femme d'une...
maladie de Creutzfeldt-Jakob.
Enfin, d'une variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob et qui a déclenché ses premiers symptômes 15 jours après la première piqûre. J'ai moi-même mon père qui, malgré mon insistance pour qu'il n'aille pas se faire vacciner, qui a déclenché un Alzheimer 15 jours après la deuxième piqûre alors que c'était une force de la nature. J'ai rencontré des femmes qui ont été obligées de se faire enlever l'utérus parce qu'elles avaient des thromboses ou des saignements permanent. Je suis la marraine d'une jeune fille qui s'appelait Elodie, qui est morte d'un AVC à 20 ans, quelques semaines après le vaccin Pfizer. Donc, si vous voulez, toutes ces choses-là, moi, j'ai été sur le terrain, j'ai rencontré... Moi, j'étais à la première manifestation devant Pfizer. J'avais la maman, la tante de Mélanie dans mes bras qui pleurait à chaudes larmes parce qu'elle avait perdu sa nièce. J'avais aussi ces soignants suspendus qui me racontaient ce qu'ils avaient vécu pendant le Covid. Donc, j'ai vu ces témoignages. Et quand on est journaliste, on se base aussi sur des témoignages. Et puis surtout, j'ai examiné les chiffres qui étaient donnés par l'adresse ou par VAERS, etc. Et que c'était, si vous voulez, voyant. Et quand j'ai dénoncé ces lâches dont vous me parliez tout à l'heure, eh bien oui, je parle de ces lâches. Alors, ce tweet que j'avais fait n'était pas forcément... pour les vaccins, c'était pour un autre sujet. Mais si vous voulez, moi, j'ai beaucoup de respect pour des gens comme monsieur Geoffrey Lejeune, qui dirige le JDD. J'ai beaucoup de respect pour quelqu'un comme Christine Kelly, qui est très appréciée sur CNews. Mais quand ces gens vous annoncent chez monsieur Morillo qu'ils étaient au courant des effets secondaires, qu'ils savaient ce qu'il y avait dans les contrats, au même titre que moi, parce qu'on est journaliste et que c'est notre travail, mais que c'était tabou d'en parler...
Il y a un petit problème.
Il y a un petit problème pour moi. Alors, je sais que j'étais pas très sympathique avec eux et que je leur suis tombée assez violemment dessus.
Mais si vous voulez, ça me tenait à cœur.
Mais ça me tenait à cœur. Et puis, il faut me comprendre aussi. C'est-à-dire que dans les journalistes, j'étais la seule à en prendre plein la gueule.
Ouais.
Voyez, parce que les autres ont été lâches. Mais en fait, ils ont été lâches de quoi? C'est même pas de la lâcheté, c'est qu'ils n'ont pas fait leur métier. Voyez, c'est que notre métier, on est journaliste, on a la charte de Munich. Et notamment dans la charte de Munich, il y a un article, c'est l'un des principaux, qui dit qu'il faut, malgré ce qui nous en coûte, dire la vérité. Voilà. Donc moi, en fait, j'ai l'impression d'être punie pour avoir dit la vérité, en tout cas, factuellement, ce que je constatais sur le terrain, alors qu'il y a des gens qui n'ont rien dit alors qu'ils savaient et qu'ils sont toujours en poste.
Oui, ça, c'est sûr que c'est...
Donc c'est rageant parce que moi, au moment où j'ai fait les choses, je ne me disais pas... j'avais pas pour but de faire du buzz chez Cyril Hanouna. Moi, je voulais vraiment prévenir les gens. Enfin, dire attention, réveillez-vous. On est en phase 3, on est en phase expérimentale. Il y a des thromboses, on l'a découvert ensuite avec le vaccin de AstraZeneca. C'était marqué, c'était dans les contrats. Pourquoi les contrats, quand les députés européens les ont demandés au tout début de la crise, ils étaient caviardés? C'est pas normal. Pourquoi il y avait un secret défense sur cette période-là, alors que ça concerne notre santé? Je veux dire, il n'y a rien de plus intime que la santé d'une personne. Pourtant, on a été sous secret défense et on l'est toujours. Pourquoi il était impossible de demander des comptes au laboratoire de Wuhan en Chine, alors que quand tout bon journaliste qui se respecte savait que ça ne pouvait pas venir d'un pangolin, dans la mesure où à cette époque-là, quand ça a commencé, c'est-à-dire octobre-novembre 2019, il n'y avait pas de vente de pangolins sur le marché de Wuhan. Il suffisait de faire quelques recherches sur Google pour s'en rendre compte. Donc en fait, c'est tout ça que moi j'ai voulu dire parce que c'était mon métier de le dire. Voyez, et que j'ai trouvé extrêmement lâche de la part des autres journalistes qui avaient peut-être même plus de pouvoir que moi et qui ne l'ont pas fait si on avait été plusieurs à le faire.
Alors, ça aurait peut-être changé la donne.
Enfin, on a toujours dit que le
c'est
journaliste
ça que vous
est
dire,
un...
Hein.
Pardon,
ça aurait changé la donne.
Ça aurait bien sûr, ça aurait changé la donne. Non, au lieu de ça, on préférait faire du clic, du putaclic ou de l'audience en disant à quel point on allait tous mourir en fait.
Ouais, sans jamais. On joue pas avec ça. Enfin,
voilà,
c'est ça qui m'a
toujours.
Pour moi,
si vous voulez, moi en tant que journaliste, j'ai pu m'amuser de trucs. Alors, je sais qu'on m'est tombé dessus parce qu'en plus j'étais dans la presse People, donc on prenait la tête. Oui, t'as révélé la vie privée de machin. Oui, oh, la bonne affaire, j'ai révélé qu'elle était amoureuse ou amoureux d'un tel ou d'un tel. C'est sûr que ça a dû, dans sa vie, ça a dû la traumatiser. Oui. Mais par contre, tous ces journalistes du mainstream, de la presse sérieuse, entre guillemets, hein, parce que vous savez que la presse people est considérée comme la presse pas sérieuse, ah ben oui. Et puis vous avez la presse sérieuse comme Le Monde, Libération, hein, France Inter, etc. Eh bien, ces gens-là, pour faire du clic, des ventes et de l'audience, ont préféré rabâcher pendant des années, hein, jusqu'à fin début 2023, qu'on allait tous crever du Covid et qu'il fallait absolument se vacciner. Ils ont été tous dire aussi le nombre de chroniqueurs ou de journalistes qu'on a mis plein la figure aux soignants suspendus pour leur dire que c'était de dangereux personnages qui mettaient la vie des patients en danger sans jamais rappeler que quand même...
Ceux qu'on applaudissait.
Voilà, ce qu'on applaudissait, et puis sans jamais rappeler que quand même, on a fait venir des soignants qui avaient le Covid par manque de main-d'œuvre. Mm-hmm. Vous voyez, toutes ces choses-là, pour moi, ça me semblait tellement surréaliste que c'est... Enfin, je sais pas comment vous dire, c'était impossible de se taire.
Ben, vous le dites, c'est ça.
Voilà, c'était impossible de se taire, j'en ai payé le prix fort. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ma situation est compliquée, mais je ne pourrais jamais regretter, jamais... d'avoir fait mon travail.
Je pense que vous en êtes même fière.
Non, je ne tire pas de fierté.
Non plus ?
Non, c'est pas...
Alors quel serait le bon adjectif ?
Non, j'ai juste fait mon travail. Maintenant, ce qui est dur, c'est d'être puni pour avoir fait son travail. Mais j'ai fait mon travail, je n'ai pas voulu être connue. Moi, ça m'allait très bien de travailler dans l'ombre, vraiment. Ah. J'étais pas, quand Cyril m'a proposé de venir, j'y suis allée. C'était pas parce que j'avais envie d'avoir ma tête à la télé, c'est parce que je devais faire la promotion de mes magazines, vous voyez. C'était dans le cas. Enfin, j'ai jamais voulu être connue, sinon j'aurais commencé à faire de la télé à l'âge de 20 ans quand on me l'a proposé et pas.
Oui, je me doute bien que vous n'avez pas attendu 38, après Cyril Hanouna.
Ouais, vous voyez, pas ce genre de choses. J'ai jamais voulu faire de. Voilà. Et je trouve ça hallucinant. Et quand j'ai parlé des lâches sur ce tweet. Il me semble, hein, parce que j'en fais tellement des tweets que peut-être que je me trompe, mais il me semble que je m'en prenais directement, c'est vrai, à TPMP.
Oui, en celui-là, oui. Enfin, moi,
parce que j'avais trouvé hallucinant cette séquence. C'était en plein procès. C'était en plein procès, vous savez, pour Zoé Sagan.
Tout à fait.
Pour Zoé Sagan, et donc moi je le connais bien, Aurélien. Enfin, je le connais bien. Je connais Aurélien Atlan. J'ai eu l'occasion de discuter à de nombreuses reprises avec lui. C'est plus un secret, ça l'a été pendant longtemps parce qu'on faisait attention à faire en sorte de ne pas dire qu'on se connaissait ou qu'on avait même pu travailler ensemble sur certains dossiers. Mais ce qui est arrivé à Aurélien Sagan, c'est juste quand même énorme. C'est-à-dire que déjà, la façon dont a été retranscrit dans la presse le procès est juste à côté. Hein, c'est pas du tout comme ça que les choses ont été dites pendant le procès. Et puis, dans cette fameuse séquence de TPMP, moi, ça qui m'avait extrêmement choquée, c'est que nous avons donc Gilles Verdez, hein, que j'aime par ailleurs beaucoup, hein, vraiment, qui est vraiment quelqu'un que j'aime bien, hein, très sincèrement, mais qui nous sort... Bon, alors, je sais que c'est pour faire du buzz, pour maintenir le suspense, etc., dans l'émission, mais qui nous sort, nous avons des infos exclusives sur le procès de Zoé Sagan, qui accuse Brigitte Macron d'être un homme et d'avoir usurpé son identité. Nous avons des informations exclusives. Et puis, au final, les informations exclusives, c'était les informations de Tiphaine Osière, la fille de Brigitte Macron. Non, mais c'était pas possible.
Vous étiez là, le jour-là ?
Non, j'y travaillais plus. Mais si vous voulez, quand je vois une séquence pareille, ça me fait bondir de ma chaise. On peut pas dire qu'on a des infos exclusives de la fille, de la celle qui attaque. C'est juste hallucinant. Vous allez forcément avoir un point de vue tronqué, et ce qui était le cas. Et puis en plus, moi, j'ai assisté à des discussions quand je travaillais à TPMP, pendant les coupures pub, et je peux vous dire que la moitié des chroniqueurs n'y croient pas une seule seconde, que ça soit vrai ou pas, hein, j'ai envie de vous dire. Hein, moi-même, je n'ai pas la preuve à 100% que Brigitte Macron est un homme. Mais je peux vous dire que la moitié des chroniqueurs sont persuadés que ce n'est pas une femme. Donc, vous voyez, cette hypocrisie dégueulasse, tout ça pour taper sur quelqu'un qui, en plus, aujourd'hui, n'a plus rien. Hein, je ne sais plus qui disait ça, mais je crois que c'est Éric Nolot. Ce fameux et cher, très cher Éric Nolot qui a la chance d'être sur tous les médias mainstream. Ce cher Éric Nolot qui expliquait qu'il fallait carrément tout enlever à Zoé Sagan. sa maison. Ah non, c'est pas Eric Nolot, pardon, excusez-moi, je m'excuse, c'est pas Eric Nolot, c'est Pascal Pro. Ah. Pascal Pro qui expliquait que même si Pascal Pro a fait beaucoup. A fait souvent un bon travail. J'ai trouvé dégueulasse qu'il dise ça. Je m'excuse pour Eric Nolot. Hein. C'est pas Eric Nolot, pardon. Non. C'est Pascal Pro qui dit il faut tout lui enlever, sa maison, ses revenus. Non, mais on est où là? On est où? Tu veux la mort sociale, professionnelle de quelqu'un qui a enquêté, qui a fait 3 tweets qui, somme toute, n'étaient sincèrement pas très loin de la réalité? On est quoi? Vous critiquez la Russie, mais on est pire qu'en Russie. Voyez, moi ça me choque.
C'est pas faux. Et en plus, dites-moi si je me trompe, il y a un procès malheureusement qui vous oppose à plusieurs personnes aussi.
Oui.
Qui vous ont accusé parodiquement ou non dans des affaires liées à la Dénochrome avec une audience qui est prévue, n'est-ce pas, en mai 2026.
Ouais, ça, vous êtes bien renseigné.
Ah bah écoutez, si je vous invite, c'est pas pour... voilà. Où en est justement cette affaire Myriam et que pensez-vous de l'utilisation de la justice dans les débats publics?
Alors j'ai eu oui, parce qu'en plus de ça, en plus de m'avoir enlevé mon travail, ces histoires m'ont coûté de l'argent et beaucoup d'argent.
C'est bien pour ça que je vous pose cette question.
Beaucoup, beaucoup d'argent. J'ai jamais fait de cagnotte, mais je vais peut-être être obligée d'en faire une, un de ces quatre, parce que voilà, je me retrouve un peu à sec. Bon, bref, j'aime pas demander de l'argent. C'est mon côté fierté napolitain. Mais j'ai eu une audience contre le professeur, le docteur Marty, qui a carrément... dit sur les réseaux sociaux que j'étais qu'une conne, excusez-moi du terme, et que je profitais de la crise.
Sur X,
voilà. Il a fait un tweet pour dire que j'étais conne et que je profitais de la crise. Alors, monsieur Marty, vous êtes bien gentil, mais si j'avais profité de la crise, ma banquière le saurait, ce qui est loin d'être le cas. Et puis bon, si moi je suis conne, vous êtes quoi? Enfin, moi, pour moins que ça, je m'en suis pris plein la tronche. Donc j'ai eu effectivement une procédure avec Monsieur Marty. J'aurais pu en avoir avec plein d'autres, hein, mais je me suis arrêtée à lui. Et puis, Monsieur Erregat, qui se fait appeler Flibustier sur les réseaux sociaux, Vincent Flibustier, qui a lancé le hashtag Myriam Palomba pédosataniste. J'étais quand même en top tweet pendant une semaine avec ce hashtag. Ça me poursuit. Alors là, ça s'est un petit peu calmé, mais ça me poursuivait jusqu'à encore il y a quelques semaines. Mmh. Ça m'a pourri la campagne électorale pendant les européennes. Hein. Quand les journalistes interviewaient Florian Philippot, il lui parlait de cette histoire en disant vous n'êtes pas un peu taré d'avoir pris Myriam Palomba qui est pédosataniste, qui croit à la thèse pédosataniste. Donc en fait, pour revenir un peu sur les faits, il s'avère que je me retrouve sur l'émission de TPMP, je suis là pour parler des politiques et de la drogue à l'Assemblée, ce qui n'est plus un secret aujourd'hui, mais bon, à l'époque, c'était pas encore très répandu. Et il s'avère que nous avons Gérard Forel, l'ancien dealer des stars et des politiques, qui est sur plateau et qui dit des trucs de fou. Et voilà, il dit beaucoup de choses. Et à un moment, Cyril Hanouna me dit « Myriam, qu'est-ce que c'est que l'adrénochrome ?» Donc moi, j'explique ce que c'est et je dis « Effectivement, ce n'est pas dément d'enquêter sur ce genre de choses. » Et évidemment, et je réitère, ce n'est pas dément d'enquêter sur ce genre de choses. Et je pense que l'affaire Epstein, si les journalistes n'avaient pas aussi peur d'y aller, se rendraient compte que ce que j'ai dit, notamment sur la pédocriminalité et les élites, n'était pas si fou que ça. Hein, et que aujourd'hui, si on va au fond du sujet de l'affaire Epstein, on pourra se rendre compte que le mot ne serait-ce que adrénochrome.
Vous pouvez rappeler à nos auditeurs.
Alors, l'adrénochrome, en fait, c'est une hormone qui est générée par les enfants quand on leur fait peur. Cette hormone aurait je rassure nos auditeurs, je n'ai jamais essayé l'adrénochrome, que ça soit de façon synthétique ou autre, aurait la capacité de faire rajeunir les gens. Ce qui, au-delà de ça, de cette croyance-là, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, aujourd'hui, dire que des enfants subissent les pires atrocités, qui vont même jusqu'au crime, dans des réseaux pédocriminels qui touchent les classes sociales les plus basses, mais surtout les plus hautes, ce n'est pas une légende urbaine de dire ça. Ce n'est pas une légende urbaine. Et pour être très honnête avec vous, moi, pendant toute une période, j'ai enquêté sur tout ça. Justement, c'est ça qui est un peu bizarre, c'est qu'au moment où j'ai prononcé le mot adrénochrome dans cette émission, c'était une époque où j'enquêtais là-dessus depuis plusieurs mois. Et en fait, j'avais pas été jusqu'au bout. Hein, une enquête, c'est long, surtout, vous imaginez, sur ce genre de sujet. Hein, vous avez
très délicat. Là.
Vous n'avez pas des témoignages de victimes et de bourreaux tous les quatre matins. Non. C'est très, très compliqué. Et pendant cette période, je n'ai jamais été autant menacée de ma vie. Il m'est arrivé des trucs dans la vie, dans la vraie vie, que si j'étais pas parano, je me serais dit « on veut ma mort ». J'ai reçu des coups de fil très menaçants de gens haut placés. Donc, à un moment donné, d'ailleurs, ce qui m'a contrainte, hein, je vais être très honnête avec vous, à arrêter d'enquêter sur ce sujet, parce qu'à un moment, mon mari m'a dit « c'est bon, on a une famille, hein, donc ça suffit ». Donc, si vous voulez, moi, quand je vis ça dans ma vie privée et que je me fais avoir le hashtag Myriam Palomba pédosataniste, j'ai envie de pleurer, parce que déjà, d'une, le sujet est extrêmement grave. Deuxièmement, il n'y avait rien de parodique dans ses propos qu'il a dit. D'ailleurs, il n'a pas hésité à aller notamment chez Valérie l'expert dans Sud Radio pour dire à quel point j'étais une ignoble personne d'avoir parlé de ça et que j'étais qu'une sale petite complotiste. Et puis à m'en mettre plein la gueule. Et si vous voulez, moi, ce que j'ai vécu dans ma vie privée me laisse à penser que s'il n'y avait rien derrière tout ça, pourquoi avoir autant de menaces et pourquoi il m'est arrivé autant de choses, vous voyez. Donc, je suis ni suicidaire, je suis rien du tout. Moi, ma vie privée, ça va très bien. Je faisais juste mon travail. Et comme c'est un sujet qui me tient à cœur, je trouvais que c'était important parce qu'il y a très peu de journalistes qui font ce boulot-là. Oui. Il y a Florence, j'ai oublié son nom de famille, qui fait un boulot formidable sur ce sujet. Il y a Carl Zero qui fait un boulot formidable. Mais bon, il n'y en a pas tant que ça parce que c'est un sujet où il est très difficile d'enquêter. Et puis surtout, je vous le dis, quand vous enquêtez là-dessus, c'est un peu comme le lobbying pharmaceutique, quoi. Vous pouvez y laisser votre peau. Donc c'est très compliqué. Carl Zero, ça lui a coûté sa carrière hein, sur Canal+. Hein. Donc,
bien que, bon, il arrive quand même à continuer à dénoncer.
Oui, mais lui, ce qui fait qu'il s'en sort super bien, c'est qu'il était producteur de son émission de Canal+, et qu'à l'époque, il a réussi à vendre sa boîte de production très cher. Donc, ça lui a permis par la suite de poursuivre sa vie sans être embêté. C'est pas avec, c'est quoi, son magazine, je crois que c'est L'Envers... du décor, quelque chose comme ça. Enfin, le magazine qu'il produit sur la pédocriminalité, s'il est à l'équilibre, c'est bien. Hein. C'est pas ça qu'il l'enrichit. Hein, parce qu'aujourd'hui, la presse, c'est très compliqué de vivre de la presse. Donc voilà. Et donc, monsieur Philippe Bustier, avec qui j'ai une procédure parce que ça a été beaucoup trop loin. Parce qu'en plus, au-delà de lancer ce hashtag, c'est que ce monsieur s'est fait du buzz sur mon dos, m'a sali, m'a fait passer pour une folle et s'est enrichi sur mon dos. C'est-à-dire que c'était bien sympa d'aller dénoncer la petite complotiste, mais en même temps qu'il dénonçait soi-disant pour le bien de la communauté la petite complotiste que j'étais, il s'est fait de l'argent sur YouTube, sur TikTok et sur Twitter grâce à moi, parce que les abonnés qu'il a pris sur Twitter, il devait, avant cette histoire, il devait être aux alentours de 10 000, il a explosé en me tombant dessus et en faisant du buzz sur mon dos. Donc, moi, toutes les vidéos où il m'insultait sur TikTok, elles lui ont rapporté de l'argent, voyez.
Alors, je ne m'avance pas, hein, parce que je ne connais pas assez bien le... Mais n'était-ce pas voulu, tout simplement
Ah ben, je ne sais pas, c'est peut-être voulu, je veux dire, j'en sais rien. Je veux dire, c'est comme toute la sphère, la Conspiracy Watch, qui me tombe dessus. Je sais pas si j'y suis encore ou pas, j'ai pas regardé, ça m'intéresse tellement peu. Mais bon, voilà, pendant toute une période, j'étais même dans le générique de Conspiracy Watch, pour dire à quel point j'étais une folle furieuse d'oser dire qu'il y avait des effets secondaires du vaccin. Non, mais on est chez les dingues quand même quand on y repense. Hein. De toute façon, tous les médicaments ont des effets secondaires. Mais bon, dans un médicament, on dit c'est sûr, efficace, alors qu'on sait qu'on est en phase 3, donc en phase expérimentale, et qu'on dit aux gens, allez vous faire vacciner pour sauver la vie des autres, on est quand même en droit de se poser des questions. Donc, toute cette sphère-là, Conspiracy Watch, etc., je ne sais pas si c'est voulu, s'ils ont reçu des ordres de plus haut, puisque, comme chacun sait, ils sont financés par le fonds Marianne, ils ont été financés par le fonds Marianne. Et donc par ce qu'a créé Marlène Schiappa, soi-disant pour Samuel Paty, hein, c'était loin de vouloir promouvoir les valeurs de la République en l'honneur de Samuel Paty, que de tomber sur tous les opposants et tous les critiques et les lanceurs d'alerte d'Emmanuel Macron et de ceux qui critiquaient les mesures sanitaires et le vaccin.
Tout à l'heure, vous parliez d'Edouard Philippe, qui est omniprésent sur les plateaux, il faut bien le dire, hein, et se positionne clairement pour 2027. Vous l'avez qualifié de futur Macron et de Young, dites-moi si je me trompe, leader sous influence chinoise. Quels sont les éléments concrets qui vous font dire cela, en fait ?
Ah bah, déjà d'une, futur Macron, il a été Premier ministre chez Emmanuel Macron. C'est quand même le premier ministre qui a soutenu Castaner quand il a tapé sur les gilets jaunes. C'est quand même lui qui nous a imposé les confinements. C'est quand même lui qui est à l'origine de la circulaire du Rivotril envoyée par Monsieur Véran pour.
Qu'est-ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait énormément d'effets secondaires.
En tout cas, on ne donne pas du Rivotril à des gens qui sont en détresse respiratoire. C'est antinomique, hein, médicalement parlant. Mais bon, peu importe. Si vous voulez, ce monsieur d'ailleurs, qui est très macroniste, hein, on le voit bien, hein, le parti, le groupe Horizon à l'Assemblée nationale est toujours du côté de la Macronie, comme le Parti socialiste et une bonne partie des LR. Donc, on voit bien qu'ils sont, ils ont voté tous les budgets, toutes les lois macronistes. Donc, dire qu'il est macroniste, pour moi, ça va de soi, vous voyez, dans ces éléments. Après, le fait qu'il soit young leader à la botte chinoise, bah, quand vous vous rendez, comme beaucoup d'ailleurs de politiciens aujourd'hui, au Chinese Business Club tous les ans, que vous avez pour parrain M. Raffarin, qui est, dont les appointances avec les Chinois n'est plus à démontrer, quand vous êtes le Premier ministre qui, quand même, était là pendant la crise sanitaire et qui n'a jamais voulu poser des questions à la Chine sur l'origine du virus, vous voyez, sans rentrer dans des détails que je pourrais, hein, rien que ça, j'ai envie de vous dire, dire qu'il est young leader à la botte chinoise et américaine, parce que de toute façon, c'est même combat, c'est pas.
C'est pour ça que je voulais vous entendre à ce sujet.
Voilà. Et franchement, j'ai bien peur, hein, vu la propagande qui est faite, parce que pas vos auditeurs, bien évidemment, parce que les gens qui écoutent Radio Courtoisie sont des gens éveillés. Voilà. Et puis vous faites tous un travail exceptionnel sur Radio Courtoisie, donc les gens qui vous écoutent sont au courant des choses, mais. Si vous voulez, là, on voit bien toute la propagande. Il y a eu un dernier sondage où il est devant Bardella, je crois. Bon, pour moi, Bardella ou Edouard Philippe, c'est un peu la même chose. Mais bon, bref, toute cette frange franc-maçonnique pour moi, c'est un peu particulier. Mais bon, malheureusement, les Français ont un peu la mémoire d'une moule. C'est-à-dire que aujourd'hui, on vous mettra Édouard Philippe ou quelqu'un d'autre qui sera exactement qui sera quelqu'un du système pour faire ce que le système a décidé de faire. Et les Français s'exécuteront comme ils l'ont toujours fait. On parlait tout à l'heure de la mairie de Paris. Édouard Philippe a été réélu au Havre. On a même des maires accusés de viol et d'agression sexuelle qui ont été réélus. Donc moi, plus rien. M'étonne. Et c'est là où des fois j'ai un peu d'amertume. Alors c'est peut-être le seul regret que j'ai, et encore, parce que je sais que le fait d'avoir ouvert ma bouche a permis d'aider des gens et d'éveiller des gens, et même si j'en ai éveillé que 1000, et ben ce sera toujours 1000 qui auront pas été se faire picouser ou qui ne se feront pas avoir par Emmanuel Macron. Mais quand même, quand vous y laissez votre travail, que vous y laissez quand même une partie de votre santé, parce que vous traversez pas 5 ans comme je les ai traversés en étant Pumped up du matin au soir. Hein. Il y a quand même des périodes où c'est un peu dur. Heureusement
vous
que
n'êtes
j'ai
pas
une
un
vie.
Robot, oui.
Voilà, heureusement que j'ai une vie très équilibrée et une famille autour de moi. Mais quand vous faites tout ça, que vous sacrifiez énormément, énormément de choses, hein, parce que moi, avant tout ça, j'avais une vie de rêve. Hein, je faisais partie des privilégiés. Je gagnais extrêmement bien ma vie. Je faisais de la télé. J'étais invitée partout. On me respectait. Enfin, vous voyez, quand vous avez sacrifié toutes ces choses au nom de votre métier, juste pour avoir fait votre métier, mais parce qu'au nom de la vérité, et que vous voyez que les Français continuent à voter pour des Emmanuel Grégoire, pour des Édouard Philippe, pour des Emmanuel Macron, comme en 2022. Alors, on a de la chance, François Bayrou n'a pas été réélu à Pau. Alléluia, après Bétarame, quand même. Mais bon, quand même, que personne ne descende dans la rue, alors que quelqu'un comme Florian Philippot organise quand même des manifestations assez régulièrement pour dénoncer tout ça. Enfin, je veux dire, je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut pour que les Français se réveillent? Des fois, je suis rongée par la colère, parce que quand je vois tout ce qui se passe et qu'on reproduit toujours les mêmes erreurs, alors est-ce que c'est parce que les Français sont lasses? Est-ce que c'est parce qu'ils sont pas suffisamment informés? Est-ce que c'est parce qu'ils sont égoïstes? Est-ce que c'est parce que le système est trop fort et que on ne peut pas lutter contre.
Et fait peur, peut-être.
Et fait peur. Moi, je crois, et c'est ce qui m'a toujours guidée, c'est que on est quand même le nombre, on est quand même les plus nombreux, et que j'ai pu le constater, même si c'est dur et c'est long, que sur certaines choses, on a pu les faire reculer quand même. Et pourtant, on n'était pas tous dans la rue. Donc, c'est possible, il faut juste se bouger un petit peu. Voilà.
On va parler, ça va vous faire plaisir, d'Emmanuel Macron, hein, qui remercie publiquement Jacques Lang malgré les affaires Epstein. Hein. Et justement aussi Emmanuel Grégoire, on en a parlé tout à l'heure, qui est élu donc à Paris malgré les scandales du périscolaire, comme vous avez si bien dit en début d'entretien. Beaucoup de Français semblent résignés. Pourquoi, selon vous, y a-t-il pas plus de mobilisation, j'insiste, dans la rue?
Je vous dis, c'est soit, je crois que les Français aujourd'hui se sont un peu retranchés sur eux-mêmes.
Est-ce que vous pensez qu'ils pensent que ça ne sert à rien, soyons clairs?
Oui, je pense sincèrement qu'ils pensent que ça ne sert à rien.
Ouais.
C'est ça, parce que ils votent, ça change pas grand-chose. Ils votent pas, ça change pas grand-chose. Je crois que les Français ont un peu le sentiment que quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, les gens qui nous gouvernent feront ce qu'ils veulent. Oui et
c'est
non.
C'est triste. Hein.
C'est triste, oui et non. Parce qu'aujourd'hui, même si c'est un simulacre de démocratie, vous allez voir, je suis un peu ambivalente quand je dis ça, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des gouvernants qui justifient leur légitimité parce qu'ils sont élus au nom de la démocratie, au nom du suffrage universel. Donc, on a ce pouvoir, même s'il reste minime, de faire basculer les choses. Si aujourd'hui, les Français descendaient tous dans la rue, mais pas 300 ou 500 glands ou 500 000 glampins, je vous parle de par millions, on serait les plus forts. Enfin, si on voulait aller déloger, vous créer des problèmes en faisant un appel à la révolution antenne, c'est pas ça que je dis, mais si on avait envie de demander des comptes ou de déloger l'Élysée, on pourrait le faire. Mais on ne le fait pas parce qu'on est tous chacun chez soi, retranché dans son truc, en pensant, on n'a pas, si vous voulez, trouvé encore la personne qui serait capable d'unifier un mouvement populaire fort et important. Mais si vous voulez, moi, quand je vois Emmanuel Macron remerciant Jacques Lang, mais c'est un doigt d'honneur qui est fait aux enfants, aux victimes des agressions sexuelles et des viols, enfin, même s'il n'est pas encore prouvé, et jusqu'à ce qu'il soit condamné par la justice, Jacques Lang reste innocent. Mais quand vous avez quelqu'un comme Jacques Lang et sa fille qui ont conversé, touché de l'argent de Jeffrey Epstein, qui est quand même pédocriminel reconnu depuis 2008 ou 2009, et ils ont continué bien après. Hein, parce que je rappellerai qu'il a été condamné pour prostitution de mineurs, je crois que c'était en 2009 si je ne me trompe pas, et que ce monsieur et sa fille ont continué à converser avec lui, hein, que on parle de 5 millions qui auraient été donnés à sa fille en guise d'héritage. Vous ne donnez pas un héritage de 5 millions à quelqu'un qui est juste une simple connaissance, on se moque de qui, hein, et pourtant, M. Emmanuel Macron, qui, à mon sens, est une ancienne victime de pédocriminalité, remercie Jacques Lande pour tout le bien qu'il a fait en France et notamment à travers la culture. C'est vraiment dégueulasse. Mais je veux dire, ça l'est tout autant quand vous avez une perquisition à la banque Rothschild, comme ça s'est déroulé vendredi dernier, et que Madame Ariane de Rothschild, qui dirige depuis la mort de son mari la banque Rothschild, qui a échangé plus de 5000 mails avec M. Rothschild, qui a signé un contrat, soi-disant, de conseil de 25 millions d'euros avec M. Epstein, et qu'on perquisitionne pour faire genre son siège de Paris, alors que le principal siège est en Suisse, et qu'elle n'est même pas convoquée par la justice, au même titre que Jacques Lang, hein, parce que Jacques Lang n'est toujours pas convoqué par la justice. Il n'y a que M. Fabrice Aidan, le diplomate, hein, qui, à mon avis, va être le bouc émissaire de toute cette histoire. Mais c'est lui qui va prendre pour tout le monde. Vous trouvez ça normal? Et les Français, il n'y a rien qui fait. On les a confinés pour rien. Ça ne les émeut pas plus que ça.
Il y en a quand même, je vous explique.
Non, mais quand je dis, des 4 ou, allez, on va dire 10 millions de Français qui sont comme nous, entre guillemets, qui sont éveillés, qui sont contre tout ça, y compris conscience des choses. 10 millions sur presque 70 millions de personnes, il en manque quand même beaucoup.
Effectivement.
Vous voyez, moi, c'est de ces gens-là, c'est de tous ceux qui manquent à l'appel dont je parle, hein, bien évidemment. Mais ces gens-là, quand je vois que les confinements, ça ne les émeut pas, les soignants suspendus, ça ne les émeut pas, les victimes d'effets secondaires, ça les émeut pas. Qu'on leur dise qu'il faut aller se faire vacciner pour aller faire la fête, ça les émeut pas. Qu'on leur dise qu'il faut manger assis pour pas attraper le Covid, ça les émeut pas. Qu'on leur dise que Jacques Lang, qui pourtant est mouillé jusqu'au cou dans l'affaire Jeffrey Epstein, est un homme génial, reconnu par Emmanuel Macron, ça ne les émeut pas. Qu'une femme ou pas qui a séduit son jeune élève avant d'être mis à la tête de l'État et qui aujourd'hui coûte un pognon de dingue aux Français, ça ne les aimait pas. Une première, enfin, il n'y a pas de première dame enfant, mais la femme du président qui dit à Harry Habitant, qui est quand même, moi j'ai suivi beaucoup cette histoire d'Harry Habitant, même si ça n'a pas pu aboutir, la plainte qu'avait fait la jeune femme pour viol, il l'a forcée à une sodomie alors qu'elle ne voulait pas, étant sa petite amie, enfin c'est pas sa petite amie, c'était sa maîtresse, mais bon. Vous avez le droit de refuser quand même certains actes sexuels, parce que le tribunal a reconnu, excusez-moi, je finis juste là-dessus, mais le tribunal a reconnu que il y avait eu effectivement traumatisme psychologique et physique, mais étant faute de preuves suffisantes, a dû aboutir à un non-lieu. C'est pas que ça n'a pas été fait, c'est qu'il n'avait pas les preuves suffisantes pour prouver que ça avait été fait, ce qui est quand même drôlement différent. Et quand vous avez Brigitte Macron qui dit on les emmerde toutes ces connasses, quand vous avez des jeunes femmes qui viennent manifester
là vous faites référence
à Harry Habitant
quand ils étaient dans la loge de mémoire,
exactement,
dans le théâtre.
Enfin, ça n'émeut personne. On a des scélérats au pouvoir, ça n'émeut personne. Voilà.
Alors le temps passe très vite, hein. Je voulais quand même vous entendre. Bon, vous avez soutenu Enda Yari.
Oui.
Dans l'affaire Tariq Ramadan, réquisitoire d'ailleurs de 18 mois de prison.
18 ans.
Bruges dit 18 mois.
Parce que moi-même me suis trompée sur mon tweet. Sur mon tweet, d'ailleurs, je l'ai changé.
Ah non, c'est mais 18 c'est 18 ans.
Ouais, c'est 18 ans.
Oui, bah vous voyez, j'ai dû repenser à votre tweet.
Ah bah c'est
excusez-moi.
Ça.
Là, c'est bien de rectifier, effectivement. Quel regard portez-vous, Myriam, sur la façon dont les médias et la justice traitent les affaires de violences sexuelles impliquant des figures publiques?
Alors, Enda, moi, je la connais. Hein, j'ai eu la chance de la rencontrer. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup émue. Elle a vraiment été confrontée à un manipulateur, pervers narcissique. C'était vraiment particulier. Et enfin, elle m'a raconté les faits. Elle s'est vraiment, enfin de
glaçant.
C'était vraiment, ouais, c'était glaçant. Et c'est quelqu'un qui s'est battu pour que Tariq Ramadan soit condamné. Et ils ont enfin gagné, ce qui est une véritable victoire. Et 18 ans, c'est beaucoup en France.
Non, pas 18 mois.
Oui, 18 ans, c'est beaucoup en France et c'est assez exceptionnel. Et je suis très contente pour Enda et les autres victimes. Parce que d'une manière générale, que ça soit les viols, mais surtout en pédocriminalité sur enfants, les peines de prison, on se demande bien pourquoi, sont très faibles en France. Je sais très bien pourquoi, hein, quand je
oui,
dis...
Oui,
on se demande bien pourquoi, c'est
j'ai bien compris.
Ironique, mais sont très faibles. Et là, pour le coup, c'est une véritable victoire. Je crois que Enda avait vraiment besoin qu'on lui rende justice. C'est important quand on est ce qui est très important quand on est victime et qu'on a eu qu'on est victime de tels faits aussi horribles soient-ils, d'avoir enfin la justice qui vous reconnaisse en tant que victime et condamne votre bourreau.
Et je voulais vous entendre aussi sur le conflit au Moyen-Orient. Vous avez critiqué donc Benjamin Netanyahou, pardon,
oui,
en disant qu'il avait besoin de mettre le feu partout pour rester au pouvoir. Pensez-vous que la guerre à Gaza et contre le Hezbollah sert avant tout des intérêts politiques intérieurs israéliens?
Alors, ça sert évidemment des intérêts intérieurs israéliens, puisque vous savez très bien que Benjamin Netanyahou tient sa place à la Knesset par le soutien qu'il a de l'extrême droite et notamment de Smotrich et de ses copains qui, eux, rêvent du grand Israël qui regroupe Israël, qui est, pour l'instant, il faut quand même reconnaître, un tout petit territoire. Et ils veulent également ce qu'ils appellent, eux, la Judée-Samarie, mais qui n'est autre que la Cisjordanie. Ils veulent le grand Israël. Alors, ils vont vous dire que c'est pour des mesures sécuritaires.
Mm-hmm.
J'en doute. Après, je ne vais pas non plus, même si je ne suis pas la plus grande fan de Monsieur Netanyahou, je ne suis pas non plus la plus grande fan du Hezbollah et du Hamas.
Mm-hmm.
Quand je vois le Hamas, les millions qu'il a touchés, que ce soit par les aides financières, notamment de l'Union européenne,
ouais,
mais aussi par des financements illicites via la drogue et la crypto-monnaie, tout ça pour s'enrichir et faire en sorte qu'il y ait 80% de chômage à Gaza. Ils en ont profité de cet argent pour construire des souterrains, mais pas pour donner du travail et des logements convenables à leur population. Donc, si vous voulez, dans cette histoire... tout n'est pas blanc ou noir, vous voyez. Moi, ce que je reproche à Benjamin Netanyahou, c'est déjà d'une, raser Gaza et tuer tous ces gens, ça n'a servi à rien. Ça n'a servi à rien. Que, effectivement, il fallait s'attaquer, ce qu'ils font aujourd'hui, et ils vont abandonner, parce que je sens bien que Trump va abandonner, s'attaquer aux principaux financements de ces groupes terroristes, hein, mmh, Hezbollah et Hamas, c'est-à-dire l'Iran, mais que aujourd'hui, que ça soit d'un côté comme de l'autre, j'ai pas l'impression qu'on ait envie d'une paix. La preuve, c'est que si Benjamin Netanyahou voulait la paix, peut-être qu'il aurait aussi accepté la solution à deux États, ce qui est hors de question. Aujourd'hui,
mmh,
on ne peut pas tuer ou virer toute une population comme ça, sans en espérant qu'ils vont aller vivre ailleurs. Enfin, c'est juste dégueulasse. Moi, aujourd'hui, on m'expatrierait de chez moi parce que dans la Bible, il y a marqué que là où je vis, c'est le territoire d'origine d'Emmanuel Macron. Je vous dis pas comment j'aurais les boules. Donc vous voyez, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. En fait, j'ai l'impression qu'on n'essaye pas aussi bien du côté des terroristes, parce qu'il y a quand même une bonne partie des terroristes qui ne veulent qu'une chose, c'est la mort d'Israël, hein, on va pas se mentir, mais vous avez aussi un gouvernement israélien qui ne fait rien pour la paix.
Et quant à la question de l'immigration, Myriam, et de l'identité française, qui revient sans cesse, hein, quand on vous demande qu'est-ce qu'être français de souche, quelle est votre réponse ?
Ah, je sais à quoi vous faites référence. Bah oui. Vous faites référence au fameux Bistrot Liberté avec ce champion de MNH. Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle. Non, en fait, j'ai français de souche. Bien sûr qu'il y a des français de souche, certainement. Enfin, mais est-ce qu'être français, aimer son pays, n'est valable que quand on est français de souche ? C'est ça, en fait. Peut-être que mon propos n'a pas été bien compris. En fait, ce qui m'a dérangé chez ce monsieur, même si en plus j'avais trouvé très courageux ce qu'il avait fait quand il avait dit fuck Macron, etc., c'est pas que il défende un peu comme un zémourien ou un zémouriste, je sais pas comment on dit.
Zémourien.
Zémourien, la France profonde, la France de souche, celle qui a 5-6 générations derrière soi. Moi, ce qui me dérange, c'est parce qu'il a dit « Moi, je veux sauver mon peuple, c'est-à-dire les Français de souche. Mmh. Sauver mon peuple, les Français de souche. » Mais moi, je suis ton peuple, monsieur.
Ben oui.
Tu vois, moi, j'ai pas. Moi, mes origines, elles sont d'origine italienne. Les deux générations avant moi sont italiens. Et pourtant, je peux vous dire que je serai prête à tout pour défendre mon pays, pour défendre la démocratie, la liberté et les Français de souche par ailleurs. Mm-hmm. Vous voyez, j'ai rien contre les Français de souche, mais aujourd'hui, être français et aimer son pays, ce n'est pas réservé qu'aux Français de souche. C'est ça que je voulais dire. Et ça me dérangeait parce que à côté de moi, lors de ce débat, il y avait l'aposta Majid Moukacha, mm-hmm. qui est quelqu'un qui dénonce l'islam et qui a été exclu de sa famille, qui a reçu des menaces de fou pour avoir dénoncé l'islam et qui fait partie des gens qui se sentent français et qui malheureusement même par leur faciès et leurs origines, n'est pas considéré comme mm-hmm. français.
Et encore moins français de souche. Aussi très...
Et pourtant, qui serait prêt à tout pour la France.
C'est ça.
Et ben moi, ça m'a dérangée. Voilà, c'est juste ça. Parce que moi, je ne suis pas française de souche. Mm. Et pourtant, je vous jure que je me suis battue et je pense que je me bats et je me battrai plus qu'une française de souche.
Je pense qu'on l'a bien compris.
Voilà.
Après des années de cyberharcèlement et de débats très tendus, y compris malheureusement des larmes sur les plateaux, hein, qu'est-ce qui vous donne encore l'énergie de continuer, Myriam ?
Je sais pas, je dois faire partie de la secte de Jacques Lang, sadomasochiste.
Ah. D'accord.
Moi, je plaisante.
Ah, oui,
je sais pas. Comment vous dire ? Alors là, c'est peut-être le côté un peu spirituel. Je suis devenue très... Enfin, très... J'étais très terre-à-terre avant. Mmh. Et avec toutes ces épreuves professionnelles, personnelles, je sais pas, je suis devenue assez spirituelle et même croyante.
Donc, ce qui n'était pas le cas.
Et mmh. c'est comme s'il y avait une force en moi, parce qu'il y a des moments, je me dis, Myriam, à part te prendre des coups dans la tronche, ou comme m'a dit une fois Yvan Rioufol, qui m'a demandé si j'en avais pas marre de me battre contre des moulins à vent, ce qui m'a fait d'ailleurs très plaisir.
Qui est ici de temps en temps.
non, mais il ne m'a pas dit ça méchamment. Hein,
mais, ah oui, non,
mais
je...
Voilà. Me prendre des murs dans la figure, ce qui fait très très mal. Je sais pas, il y a comme une force intérieure qui me porte. Il y a que ça que je trouve comme explication. Ou alors je suis vraiment maso. Parce que
c'est quand même
des fois, parce que vous savez, je suis pas quelqu'un de. Même si certains ont tendance à dire ça parce que je viens de la presse people, etc. Mais bon, ils connaissent pas mon CV et le nombre d'études que j'ai faites. Mais... Et puis de toute façon, je ne crois pas que l'intelligence se mesure à ça non plus. Mais. Je pense pas être débile. Vous savez, des fois, j'ai eu des façons de dire les choses ou des prises de position peut-être abruptes parce que j'ai parlé avec mon cœur. Mais vous savez, je sais être également politique. Je serais pas arrivée au niveau où je suis arrivée si j'avais pas un minimum de comment ça s'appelle, d'intelligence sociale et professionnelle. Et même des fois, quand je dis certaines choses, je sais, par exemple, quand je dis sur le plateau de TPMP qu'une prof de 39 ans qui séduit son élève, c'est pénalement condamnable, je sais que ce que je dis va me causer des problèmes. Et pourtant, il y a une force intérieure qui me dit de le faire.
Et de le dire.
Et de le dire.
Et si vous deviez donner un conseil à un jeune journaliste qui débute aujourd'hui et qui refuse de rentrer dans le rang, quel serait-il ?
Laisse tomber, tu feras pas, tu gagneras pas ta vie.
Ah, laisse tomber. C'est pas encourageant tout ça.
Ouais, non, je suis assez défaitiste sur la profession de journaliste. C'est soit tu arrives à créer un média indépendant via les réseaux sociaux, YouTube, qui te permettent...
Il y en a de plus en plus.
Voilà, ouais. Qui te permettent de vivre, chose que je ne sais pas du tout faire. Je ne sais pas, je ne dois pas avoir être de la bonne génération.
Bah, on se parle cash.
Oui, mais bon, ce n'est pas ça qui me fait vivre. Hein,
d'accord.
Vous voyez, je vais être totalement transparente avec vous. Hein. J'ai gagné très, 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 très peu d'argent avec cette chaîne. Et moi, en fait, je sais pas faire ces trucs-là. J'aime travailler en équipe. J'aime, voyez. Et aujourd'hui, quand vous devez travailler dans un média, si vous ne soumettez pas à l'ordre du jour, vous serez pas, vous ferez pas de vieux os.
En gros, ils sont pas épanouis.
Ouais.
Et pour une note plus légère ou combative, quel est le sujet tabou dont on parle presque jamais en 2026 et sur lequel vous aimeriez pourtant alerter les auditeurs de Radio Courtoisie ?
Et pour être très honnête, je crois que les auditeurs de Radio Courtoisie sont déjà très alertés parce que vous faites, comme je vous le disais tout à l'heure, vous faites beaucoup, beaucoup de choses. Moi, je crois que vraiment, ce qui est important, c'est la pédocriminalité. De ne pas lâcher l'affaire, que ça soit via les réseaux sociaux. Continuer à faire pression, parce que là, avec la guerre en Iran, avec les élections, etc., on veut passer ça sous le tapis, sauf que tout est lié. Que ça soit l'affaire Epstein, la façon dont on nous gouverne, le mondialisme, tout ça fait partie d'un état d'esprit qui est nuisible et pas très positif pour l'avenir de nos enfants. Alors aujourd'hui, on a cette force, on a des réseaux sociaux, des médias indépendants comme Radio Courtoisie qui font le boulot, donc continuer à s'informer via les médias indépendants, via X, et à continuer, même si des fois c'est casse-pied d'aller sur X, parce que c'est des fois pas très gai ou ça prend vite la tête, hein, mais de continuer à faire pression et puis de soutenir les lanceurs d'alerte comme moi je peux l'être, pour qu'on puisse, nous, avec nos comptes qui deviennent chaque jour de plus en plus gros, continuer à faire pression sur ces gens-là, parce que le but, c'est quand même de les faire flancher et de gagner.
Et en deux minutes, si vous pouvez, il y a une question que je ne vous ai pas posée, c'est... ça va être court quand même, mais bon... par rapport au budget 2026, dette publique, déficit, vous avez qualifié le budget actuel d'irresponsable. Hein.
Oui.
Quelles seraient, selon vous, et on va terminer avec ça, hein, les mesures urgentes que devrait prendre un gouvernement courageux ?
Ah bah déjà, la première chose, vous sortez de l'Union européenne. Voilà, je vais être très rapide. Quand vous avez un truc qui vous coûte plus cher que ce qu'il ne vous rapporte, vous en sortez. Enfin, c'est juste la base économiquement. C'est faire aussi le ménage dans les finances publiques et notamment dans l'administration. Je ne parle pas des fonctionnaires, mais de la façon dont fonctionne l'Assemblée nationale, toutes les commissions annexes. L'Élysée vient d'augmenter son budget de 11%. Enfin, toutes ces choses-là, hop, économie, dépenses, l'abondance. Monsieur Macron nous a dit que l'abondance était finie, sauf pour lui. Donc ça, déjà, c'est fini. Et puis, la priorité, évidemment, sortir de cette foutue Union européenne qui est mortifère d'un point de vue idéologique, d'un point de vue économique et d'un point de vue politique.
Et hors OTAN aussi, hors OMS ?
Tout, bien sûr. Hors OMS, hors OTAN, évidemment, ça va de soi.
Écoutez, en tout cas, merci beaucoup, Myriam Paloba. Ce sera malheureusement le mot de la fin, c'est passé vite. Hein, j'espère que vous reviendrez.
Avec plaisir, c'était très agréable.
J'espère. Ça l'a été aussi, ça a été très clair. Donc, je rappelle que vous êtes journaliste, ancienne directrice donc, de la rédaction, on l'a bien compris, du magazine Public. ex-chroniqueuse, hein, on en a parlé, de Touche pas à mon poste aujourd'hui, et donc créatrice de la chaîne YouTube On se parle cash, hein, qui existe toujours, même si vous dites que pour l'instant...
Si, non, mais je vais la reprendre, mais puis vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux, TikTok et Twitter.
Et X.
Instagram, ouais, X, pardon, Twitter, je suis à l'ancienne.
Bon, et puis bon, donc une voix libre qui refuse de rentrer, j'insiste, dans le rang. Donc Myriam, merci d'avoir été avec nous, d'avoir répondu sans fil pour le coup... À toutes, comme d'habitude, hein, à toutes ces questions qui fâchent et d'avoir partagé votre énergie combative. Et puis, vous l'avez dit vous-même, face à la lâcheté ambiante, il faut continuer à parler cash. Donc, sur Radio Courtoisie, vous avez été entendu.
Merci.
Chers auditeurs, n'hésitez pas à aller découvrir ou redécouvrir donc, sa chaîne On se parle cash, entre autres, et puis donc, les réseaux sociaux, à la suivre dans ses combats et surtout à rester vigilant sur tous les sujets que nous venons d'aborder. Myriam Palombard, merci encore
merci
et à très bientôt, j'espère, sur nos ondes.
À très vite.
Chers auditeurs, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat 75 016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours, toujours besoin de vous. Donc on se retrouve pour la prochaine émission le 26 avril à 21h30. À très bientôt.
Vous venez d'entendre le Libre Journal du Numérique dirigé par Jean-Étienne Poza, émission préenregistrée le 26 mars 2026 et diffusée pour la première fois dimanche 29 mars 2026 de 21h30 à 23h et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.